Bonjour Amélie, bonjour à tous. La manifestation contre les féminicides hier à Paris semble avoir été entendue. Le gouvernement annonce pour début septembre un Grenelle des violences conjugales. Dans ce journal également, la lassitude des maires de France, des élus de la Manche ont fait connaître hier leur intention de ne pas se représenter en mars prochain. L'Iran bien décidé à relever dès aujourd'hui le degré d'enrichissement de son uranium, une mesure de rétorsion au non-engagement des Européens contre les sanctions américaines. La disparition de l'un des pères de la bossa nova, le brésilien João Gilberto, est mort hier à Rio de Janeiro à l'âge de 88 ans, seul, malade et ruiné. Un rendez-vous à ne pas manquer à la une de la page sportive de ce journal avec la finale cet après-midi de la Coupe du Monde féminine de football, finale qui opposera les Américaines aux Hollandaises. Rendez-vous dans le journal des sports présenté par Vincent Pellegrini. Et puis à 8h20, Amélie Perrier, vous recevez Laetitia Avia.
Oui, la députée LREM a défendu cette semaine sa proposition de loi contre la cyber-haine. Elle viendra nous dire comment elle compte éradiquer la violence verbale des réseaux sociaux. On lui demandera si ce sera suffisant. Rendez-vous donc à 8h20.
De 1200 à 2000 personnes réunies hier à Paris, place de la République, pour réclamer des mesures immédiates pour lutter contre les féminicides. Une manifestation intervenant après l'annonce de la mort d'une mère de famille tuée par son compagnon dans la nuit de vendredi à samedi à Perpignan. Une mort portant à 74 décès, le nombre de femmes tuées dans ces circonstances depuis le début de l'année. Une manifestation suivie de l'annonce par la secrétaire d'État à l'égalité hommes-femmes, Marlène Schiappa, d'un Grenelle des violences conjugales qui devrait avoir lieu le 3 septembre prochain. Une annonce diversement apprécié par les associations féministes, comme a pu le constater Rémi Brancato.
C'est au tour du Premier ministre Édouard Philippe qu'aura lieu ce Grenelle, une réunion le 3 septembre avec les associations, les ministres et les acteurs de terrain concernés. Une bonne nouvelle pour Anne-Cécile Meyfert, présidente de la Fondation des Femmes, mais elle demande aussi du concret tout de suite.
Le Grenelle, c'est absolument essentiel pour travailler sur le fond dans la durée et prévenir à long terme les violences faites aux femmes et les féminicides. Mais il faut aussi qu'il y ait des mesures d'urgence prises dès cet été ou à la rentrée en direction des policiers, dans les commissariats, de la justice, de la santé. Il y a des manquements à tous les étages et il y a également des manquements budgétaires. On ne peut pas se satisfaire de ce qui a été fait jusqu'à présent.
Marlène Schiappa, de son côté, défend un record, 530 millions d'euros de subventions aux associations, dit-elle. Pour Caroline Dehas, du collectif féministe Nous Toutes, le message n'est pas à la hauteur.
Tous les espaces de discussion et de dialogue sont bons à prendre, mais attendre deux mois pour réunir les professionnels et les associations pour prendre des décisions, alors que 74 femmes sont mortes, ça c'est incompréhensible.
Et pour elle, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes ne peut pas tout toute seule. Elle promet de s'adresser au préfet jeudi pour, je cite, les mobiliser. Pour Caroline Dehas, c'est le ministre de l'Intérieur qui devrait s'engager.
Rémi Brancato, une manifestation et une mobilisation également entendues à l'Élysée, où Emmanuel Macron a posté hier soir sur Facebook le message suivant: la République française se doit de protéger toutes celles dont la vie est aujourd'hui en danger. Fin de citation.
Et à quelques mois des municipales, la lassitude, le ras-le-bol de maires prêts à jeter l'éponge.
Réunis hier à Bricbec, dans la Manche, des élus locaux ont annoncé en effet leur intention de ne pas se représenter pour les municipales de mars prochain. Une attitude qui irait dans le sens de l'enquête de l'Observatoire de la démocratie de proximité. Enquête selon laquelle un maire sur deux en France n'envisagerait pas de se représenter. Un véritable coup de blues qui a ses raisons, Anthony Rimbaud.
Oui, et au milieu des dizaines d'élus, pas besoin de chercher très longtemps les maires qui s'apprêtent à ranger au placard l'écharpe tricolore. C'est le cas de Jean-Pierre Mincent, maire de Bassy, une commune de moins de 1000 habitants près d'Avranches. Il ne souhaite pas rempiler pour ce poste devenu très pesant, selon lui.
Pour un oui, pour un non, on appelle le maire, on dérange le maire à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. La famille aussi en subit des conséquences très importantes, d'où mon intention d'arrêter.
Plus au nord, le village de Magneville, pas très loin de Valogne, 338 habitants, et son maire, Maurice Duchemin, qui boucle son troisième mandat. Un quatrième, il s'en passerait volontiers.
Les successeurs ne se bousculent pas. Laisser la commune en l'état n'est pas forcément mon souhait, mais...
Vous êtes fatigué ?
Oui, j'ai 72 ans. À la fin du mandat, ce sera 78 ans, et je souhaiterais pouvoir passer la même et le passer dans de bonnes conditions.
Le maire, soi-disant l'élu préféré des Français, mais dont la mission ne fait plus rêver. Anne-Marie Cousin, la présidente de l'Association des maires de la Manche, appelle le gouvernement à leur simplifier la vie.
Déjà simplifier certaines démarches, protéger le maire aussi par rapport à certaines procédures judiciaires, parce que le maire n'est pas non plus le responsable de tout.
L'association demande aussi des compensations, alors pas forcément des indemnités, mais par exemple des trimestres supplémentaires pour la retraite, afin de convaincre celles et ceux qui hésitent encore à s'investir dans leur commune.
Anthony Rimbaud de France Bleu Contentin.
La suite du journal de Serge Martin. C'est aujourd'hui que prend fin le délai fixé par l'Iran à l'Europe concernant son programme nucléaire.
Téhéran avait en effet donné 60 jours aux Européens pour qu'ils l'aident à trouver un moyen de contourner les sanctions américaines qui étranglent son économie. Ce délai expire donc aujourd'hui et faute d'engagement suffisant, les Iraniens semblent bien décidés, Christian Chéneau, à dépasser le niveau d'enrichissement d'uranium fixé à Vienne en juillet 2015.
Les officiels iraniens le répètent en boucle, Téhéran ne souhaite pas sortir de l'accord de Vienne comme l'a fait Donald Trump. En revanche, face aux pressions maximales des États-Unis, ils sont clairement dans une stratégie progressive de dégradation de cet arrangement international. Ils ont d'ailleurs commencé à dépasser le plafond des 300 kg d'uranium enrichi qui leur était imposé. L'Iran a également annoncé vouloir reprendre la construction du réacteur à eau lourde d'Arak. Selon les experts, il reste encore beaucoup de marge avant que Téhéran soit clairement en dehors des clous. On est donc très loin d'une reprise accélérée du programme nucléaire iranien qui pourrait mener à terme à la fabrication d'une bombe atomique. Par ailleurs, ces mesures sont réversibles rapidement, assurent les Iraniens qui font valoir que depuis la signature de l'accord de Vienne en 2015, Téhéran a scrupuleusement respecté ses engagements, comme l'a confirmé l'AIEA. En faisant monter les enchères, les Iraniens attendent une réponse des Européens à leur demande de contournement des sanctions américaines. Sinon, ils continueront à dégrader l'accord nucléaire en ne respectant plus certaines clauses du texte.
Emmanuel Macron a fait part hier soir au téléphone à son homologue iranien Hassan Rouhani de sa forte préoccupation face au risque d'affaiblissement de l'accord nucléaire de Vienne et à ses conséquences. Le chef de l'État, qui a par ailleurs indiqué vouloir explorer d'ici au 15 juillet prochain les conditions d'une reprise du dialogue entre toutes les parties.
Serge Martin, l'heure des vacances a sonné pour ceux que l'on appelle les juilletistes.
Et parmi ceux-ci, Geneviève, arrivée hier en début d'après-midi au camping des Flots Bleus, au pied de la dune du Pilat, venant de Liège, en Belgique, après un très long voyage au milieu des bouchons, vous me direz, pour une habitante de Liège. Geneviève qui a rencontré Stéphane Hiscock de France Bleu Gironde.
Ce fut long. On a roulé à deux, mon mari et moi, et voilà, presque 14 heures, on a eu quelques bouchons. On s'est arrêté aussi pour boire un coup, pour fumer une cigarette, voilà. On se réjouissait. Ici, c'est vraiment le calme. Vraiment, vive les vacances. Aujourd'hui, journée de repos, et puis demain, quelques activités, aller faire des courses, aller manger les bonnes huîtres, aller dans l'eau. On va aller au petit Nice pour faire de la baignade avec les enfants, parce qu'on en a quand même quatre avec nous. Puis la dune... Pour le fun, par rapport aux enfants, la montée, moi je ne l'ai montré qu'une fois cette année ici. L'année passée, je l'ai fait deux fois, c'était trop dur.
Et pour refermer ce journal, un hommage à un grand nom de la musique brésilienne, João Gilberto, le père fondateur de la Bossa Nova, est mort hier à Rio de Janeiro. À l'âge de 88 ans, cette légende de la musique, auteur de titres interplanétaires comme The Girl from Ipanema, s'est pourtant éteint dans la solitude, malade et ruiné. Corinne Pellissier.
Et la fille Gérald, Frank Sinatra, Amy Winehouse, Madonna, tous ont repris un jour ou l'autre ce morceau le plus culte du répertoire populaire brésilien. Mais personne n'aura su l'interpréter avec la grâce et la sensualité de João Gilberto, perfectionniste obsessionnel, interprète de génie, qui ne composait pas, mais avait inventé au début des années 60 son propre style, la bossa nova, une sorte de samba décalé joué sur une note qu'il susurrait accompagné de sa guitare.
Si você disser que eu desafino, amor.
Des morceaux devenus cultes qu'il réinventait constamment sur les plus grandes scènes du monde, de Paris à Tokyo, en passant par le festival de jazz de Montreux, la bande-son aussi d'une époque et d'un pays, le Brésil, en pleine effervescence, avant le coup d'État de 1964, et cette rencontre avec Stan Getz lors de son exil à New York. Un album quatre fois récompensé aux Grammy Awards et le début de la reconnaissance pour cet homme excentrique, mais discret. Depuis l'annulation de sa dernière tournée en 2010 pour raison de santé, João Gilberto vivait reclus et criblé de dettes, dont la tristesse et la mélancolie.
João Gilberto, l'une des légendes de la bossa nova, décédé hier à l'âge de 88 ans. C'est la fin de ce journal. Je vous laisse en compagnie d'Amélie Perrier.
Merci beaucoup, Serge Martin.